Eh bien, chers amis de l'Église évangélique libre de Cannes, nous voilà dans notre deuxième dimanche sans culte au 89 rue Georges Clémenceau. Mais nous qui habitons sur place, Yvonne et moi, on a pensé enregistrer un mini-culte pour nous permettre de garder le contact et maintenir une certaine continuité dans notre vie de culte rendue à Dieu. Alors c'est un peu bizarre d'être dans cette salle vide, mais on vous imagine assis devant nous avec vos sourires, ou debout d'ailleurs en chantant. Et il nous a semblé important dans ces temps vraiment troublés, et cette période qui est aussi troublante, où on peut vaciller ou en tout cas gamberger pas mal, de regarder à Dieu et de trouver en lui la confiance, la solidité intérieure, l'espérance. On vous propose de chanter trois chants, puis il y aura une petite prédication, et puis pour finir, un dernier chant. Et les paroles des chants sont disponibles sur votre écran d'ordinateur, en dessous, et le texte de la prédication apparaîtra également.
De
Oui, Seigneur, merci parce que au bout de la chaîne d'amour, il y a ton cœur, le cœur du Père qui nous aime, et c'est relié à ton amour que nous pouvons faire cette chaîne. Et en s'étant troublés, Seigneur, nous voulons regarder à toi, à cet amour fidèle, au fait que tu es là, présent au milieu de nous, dans cette période troublée, dans nos souffrances. Merci parce que tu veux nous prendre la main, tu veux nous sortir, comme on l'a chanté, des grandes eaux. Et nous voulons, ce matin, te faire confiance, renouveler notre confiance en toi. Au nom de Jésus, mort et ressuscité pour nous. Amen. Dans ces circonstances tellement particulières, j'ai pensé à tout simplement continuer notre série sur le livre de la Genèse avec Joseph. Non pas parce que je voudrais faire comme si de rien n'était, non, cette crise est bien dans mon esprit et je suis comme vous tous solidaire de tous ceux qui sont impactés par cette épidémie. Mais je préfère continuer cette série parce que je ne voulais pas non plus prendre un texte biblique pour le plaquer à cette crise et en tirer des enseignements qui seraient, à mon avis, à chaud comme ça, hasardeux, maladroits et subjectifs. Donc on continue la série sur la Genèse et sur Joseph en particulier, mais vous verrez que par ricochet, il y aura certainement des choses à prendre et à méditer qui pourraient nous être utiles pour vivre cette situation actuelle. Que l'Esprit, en tout cas, nous conduise dans cette prédication de sa parole, autant le prédicateur que les auditeurs. Alors, dans cette série sur la Genèse, nous arrivons à la fin de cette belle histoire de Joseph et de sa famille. Et je peux vous le dire, et vous pourrez le lire, au chapitre 45 jusqu'au chapitre 50 du livre de la Genèse, ça se termine bien. On a presque envie de dire, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, mais Joseph ne se marie pas, mais par contre il y a de belles retrouvailles de lui avec ses frères et de lui avec son père. Il y a de l'émotion dans l'air, on pourrait même parler presque d'un happy end à la sauce hollywoodienne. Mais il faut savoir quand même que tout n'a pas été rose. Il a fallu du chemin pour en arriver à cette belle fin. Il faut se rendre compte qu'entre la mise en citerne de Joseph au chapitre 37 et la mort de Jacob au chapitre 50, il y a 37 ans qui se sont écoulés. Il a fallu 37 ans pour en arriver à cette réconciliation familiale. On pourrait parler même de guérison familiale. Il a fallu 37 ans pour que cette famille déchirée se retrouve et guérisse de ses blessures. Alors évidemment, le mot guérison ne se trouve pas dans le récit. On pourrait peut-être parler de rétablissement, un peu comme Pierre sur la plage après son reniement, quand il retrouve Jésus ressuscité et qui lui prépare du poisson. Jésus le rétablit, Jésus rétablit Pierre, le guérit peut-être. Rétablissement, guérison, les deux mots sont proches. D'ailleurs, on dit qu'un malade se rétablit. Mais pour ces deux mots, guérison ou rétablissement, il y a toujours dans le passé un événement ou une expérience qui a été douloureuse pour la personne ou qui a été traumatisante, une blessure. Nous l'avons vu pour Joseph, cette blessure a été ouverte alors qu'il était encore un jeune garçon. En plus, cette blessure a été faite par des proches, des personnes de sa propre famille. Des gens sur lesquels on peut normalement compter pour l'affection et la sécurité. Mais non, vous vous en souvenez, il y a 37 ans, il a été vendu par ses frères et ses demi-frères. Il a été rejeté par sa famille. Bien sûr, il y a eu les maladresses du père, Jacob, les maladresses de Joseph lui-même, qui raconte ses rêves au lieu de les garder pour soi. Mais le mal est fait, il est vendu, comme un objet que l'on ne veut plus voir. Et vous savez, Joseph n'est pas un héros. C'est un jeune homme qui a besoin, comme tout le monde, d'être aimé par sa famille, par ses parents, mais aussi par ses frères. Et on peut imaginer l'état intérieur de ce Joseph qui se sent meurtri au plus profond de lui-même. La blessure est d'autant plus profonde que c'est un proche qui tient le poignard. Et en plus, il ne comprend rien à rien, Joseph. Où est Dieu dans tout cela ? Quel est son plan ? Y a-t-il un sens dans tout cela ? Se dit Joseph au fond de sa citerne. Blessure affective, certainement. Blessure spirituelle, peut-être. Mais il faut remarquer qu'il n'est pas le seul blessé dans l'histoire. Ses frères aussi sont blessés. Leurs blessures aussi viennent d'un proche. C'est le père Jacob qui préfère Joseph parmi tous ses fils et qui le montre en lui achetant des vêtements de marque alors que les autres s'habillent chez Carrefour, la tunique multicolore. La préférence du père blesse profondément ces hommes jeunes qui se battent tous pour que leur père soit fier d'eux comme tous les garçons. Ils sont blessés eux aussi et ce sont des blessés qui cherchent à blesser celui qu'ils pensent être à l'origine de leur blessure. Et les frères de Joseph sont aussi blessés dans le mal qu'ils font à leur frère, le jeter dans une citerne, le vendre comme un esclave, mentir au père. Ce n'est pas anodin tout cela. Ils vivent dans une culpabilité silencieuse qui ronge à l'intérieur parce que le mal que l'on fait nous fait du mal. On ne guérit pas facilement du mal que l'on commet, ni du mal que l'on subit. Dans cette histoire de famille, pratiquement tout le monde est blessé et pratiquement tout le monde doit être guéri. Alors comprenons-nous bien. Souligner le fait que ses frères sont aussi des blessés intérieurs ne sert pas à excuser leurs gestes. Pas de justification, il s'agit simplement de pouvoir constater que ce sont des gens blessés eux-mêmes qui vont en blesser d'autres. Et le simple fait de le reconnaître, c'est quelque part déjà entrer dans un processus de rétablissement. Et pour nous qui sommes peut-être blessés, il nous faut garder en mémoire que celui ou celle qui m'a blessé est aussi un blessé de la vie. Mais revenons à Joseph et à sa guérison. Et je vous propose de faire ressortir d'abord les signes de la guérison chez Joseph. Et dimanche prochain, on verra les étapes de la guérison. Les signes d'abord. Qu'est-ce qui nous permet de voir que Joseph a été guéri ? On n'a pas de résonance magnétique à l'époque pour ce genre de traumatisme, mais un sujet... On a simplement, en la personne de Joseph, un sujet qui parle et qui prononce des paroles qui vont signaler sa guérison intérieure. Le premier signe de guérison, c'est que Joseph va proclamer la souveraineté de Dieu. Le premier signe apparaît quand il va retrouver ses frères et qu'il va leur révéler son identité. Ils vont alors discuter ensemble de cette expérience vécue il y a 20 ans, la citerne, etc. Et Joseph va dire quelque chose d'important, tellement important et significatif qu'il va le dire plusieurs fois, comme pour insister. Et nous lisons dans Genèse 45, au verset 1, des versets 1 à 9. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tous ceux qui étaient présents, s'écria « Faites sortir tout le monde !» Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent. Et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore à vie ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils avaient peur de lui. Alors Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre, pour préserver votre vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. » Il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Retournez donc au plus vite auprès de mon père et dites-lui, ton fils Joseph te fait dire ceci, Dieu m'a établi maître de toute l'Égypte, viens auprès de moi sans tarder. Joseph dit à ses frères, on pourrait même dire qu'il proclame haut et fort que Dieu dirige toute chose, sa vie et la vie de sa famille et la vie de ses frères aussi. Et cette triple affirmation de la direction divine en rapport avec l'événement le plus injuste, le plus révoltant de sa vie, est un signe manifeste d'une guérison intérieure réelle. La révolte La crainte, l'amertume, l'angoisse qu'un tel événement a certainement provoqué chez Joseph ont laissé place à cette conviction profonde que Dieu a fait concourir toutes choses à son bien et à celui de sa famille. Vous l'avez reconnu, je cite ce verset du Nouveau Testament, Romains 8, 28. Mais il a fallu du temps pour que Joseph puisse le dire. Il y a réfléchi, c'est dû méditer. Et c'est peut-être grâce à un regard rétroactif qu'il peut porter sur le passé. En fait, Joseph peut dire que finalement, et le mot est important, ce mot finalement, en fin de compte, finalement, quand on se retourne sur son histoire, Joseph peut dire, et nous pouvons le dire avec lui, que Dieu a fait concourir toutes choses à son bien et à notre bien, au bien de tous ceux qui tournent vers lui leur regard. On est guéri quand on peut dire comme Joseph que Dieu, dans sa grande sagesse et son grand amour, a fait coopérer les choses pour le bien. Et notre guérison passe par cette conviction-là. Et quand Joseph affirme la direction de Dieu sur sa vie, en intégrant les événements les plus incompréhensibles, ce ne sont pas des paroles en l'air ou des affirmations théologiques creuses. Ce sont des paroles qui manifestent une réelle conviction intérieure, une vérité intériorisée et donc guérissante. Deuxième signe de guérison chez Joseph, il se préoccupe de ses frères. Ce qui est remarquable avec Joseph, c'est qu'il veut partager cette vérité lumineuse de la direction divine sur sa vie. Il veut la partager à ses frères. À ses frères angoissés, il veut la partager pour qu'ils se trouvent eux aussi rétablis. Et ça, c'est le deuxième signe de guérison de Joseph. Il se préoccupe des autres, de ses frères en l'occurrence. Il veut leur faire partager la découverte guérissante qu'il a faite au cours de sa vie. Ça va prendre du temps pour ses frères, car 17 ans plus tard, à la mort de Jacob, Joseph va le répéter encore. Voilà ce qu'il dit en Genèse 50, je lis au verset 18. En recevant ce message de la part de ses frères et qui parle au nom du Père, Joseph se mit à pleurer. Ses frères vinrent en personne se jeter à ses pieds en disant « Nous sommes tes esclaves ». Mais Joseph leur dit « N'ayez aucune crainte. Suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte, je pourvoirai à tous vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. » Ainsi, il les rassura et toucha leur cœur par ses paroles. Il nous semble même qu'on pourrait dire que Joseph semble plus se préoccuper de la guérison de ses frères que de la sienne. En fait, on ne sait même pas s'il se sait guéri. Joseph. On ne sait même pas s'il se pose la question de la guérison, mais il l'est. Et il le montre en se préoccupant de ses frères. Ce qui lui importe, c'est que ses frères se sachent et se sentent pardonnés et qu'ils se saisissent eux aussi de cette vérité libératoire. Dieu dirige toutes choses. Joseph, sans le savoir, sans le vouloir, ou peut-être un peu, devient comme un thérapeute pour ses frères. Et toujours, sans le savoir peut-être, Joseph évite cet écueil qui nous guette quand on est blessé. Et cet écueil, c'est celui d'une auto-préoccupation excessive, d'une préoccupation de soi à l'excès. Joseph nous montre le chemin d'une guérison qui passe par une dépréoccupation de nous-mêmes ou par un décentrement par rapport à nous-mêmes. Nous sommes guéris ou en passe de l'être, comme nous sommes libres de nous consacrer aux autres et au Seigneur, sans exiger que tous nos problèmes ou tous nos soucis soient réglés a priori. Le service des autres comme un signe, mais aussi comme un facteur de guérison intérieure. Après ce chapitre 50, le texte ne nous parle plus de la famille de Jacob, peut-être parce qu'il n'y a plus rien à dire, que cette famille déchirée est pour la première fois unie, vraiment unie, en tout cas guérie de ses souvenirs. On ne parlera plus d'elle, mais elle va donner naissance au peuple d'Israël, duquel naîtra le Messie. Et je me dis que c'est quand même pas mal pour une famille qui connaît des drames familiaux assez violents. La famille de Jacob est guérie. Cela ne veut pas dire qu'elle est une famille parfaite ou parfaitement guérie. Il se peut que Joseph souffre de la phobie des citernes, de la citernophobie, ou que ses frères souffrent d'un comportement maniaque en ce qui concerne les tuniques multicolores. Ils ne peuvent plus en voir en peinture de ces tuniques bigarrées. Ils ne sont pas devenus des êtres psychologiquement parfaits ou parfaitement équilibrés, mais ils sont rétablis. La blessure est fermée, le cœur est soigné, les relations sont rétablies et les signes sont évidents pour Joseph. Il proclame la souveraineté de Dieu. Il prend soin de ses frères. Se pose aussi la question des étapes de la guérison. Nous l'avons dit, il se passe 37 ans entre Genèse 39 et la citerne et Genèse 50 et la réconciliation finale. On le voit, Dieu prend son temps pour faire son œuvre. Il prend le temps qu'il faut. Nous verrons ces trois étapes la semaine prochaine, dimanche prochain. Mais nous voulons, pour terminer, chanter ensemble ce chant qui nous parle de la majesté de Dieu, une notion qui n'est pas loin de la souveraineté de Dieu. Ce sont deux termes qui s'adressent à un roi, à quelqu'un qui règne sur nos vies. Un chant qui parle de majesté, mais aussi de grâce.
Conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice.
Je vous invite à la prière. Je lirai une prière dans ce recueil et puis je continuerai. Quand la vie me fait peur avec son cortège de changements, de bouleversements, d'inconnus, tu me dis confiance. Quand j'ai mal dans mon corps touché par la maladie, quand la souffrance et la peine me rendent prisonnier et découragé, tu me dis confiance. Quand l'envie me prend de baisser les bras, lassé par les combats, usé par les échecs, tu me dis confiance. Quand la violence semble le seul message possible, chacun pour soi la seule réponse, tu me dis confiance. Quand le sourire apparaît, la main se tend, le cœur s'ouvre, ton royaume est partagé, tu me dis confiance. Oui Seigneur, tu nous dis ce matin confiance. Et avec confiance, nous voulons te présenter tous ceux qui sont impactés par cette épidémie, pour les nombreuses personnes à l'hôpital, souvent seules. Fais leur Seigneur sentir ta présence. Nous te prions aussi pour les familles endeuillées qui ont perdu un proche, et elles sont de plus en plus nombreuses. Visite-les aussi, Seigneur. Nous te remercions aussi pour les 1300, 1400 personnes qui sont rentrées de l'hôpital guéries. Nous te prions pour tout le personnel soignant qui est en première ligne, les médecins, infirmières, aides-soignantes, puis les pharmacies encore ouvertes, et ceux qui transportent de la nourriture aussi, les caissières. Nous te remercions pour tous ces gens qui maintiennent la vie. Nous te prions pour toutes les personnes confinées et qui angoissent. Nous te prions pour Junie à l'hôpital, ses problèmes aux poumons, mais sans qu'elle ait le virus. Mais nous te prions pour elle, alors qu'elle est aussi seule à l'hôpital. Veuille la garder et la guérir, Seigneur. Qu'elle puisse être bien entourée malgré la crise sanitaire par les médecins consciencieux. Nous te prions pour les personnes fragiles, en particulier au Bougainvillée, à l'EHPAD des Bougainvillée. Sois aussi avec le personnel soignant là. Merci Seigneur parce que dans cette crise nous voyons tant de beaux gestes autour de nous, des gestes de solidarité. Et on sait que sans le savoir, ces personnes font des gestes qui viennent de toi, toi qui es le souverain bien. Apprends-nous, Seigneur, apprends-leur à te reconnaître. Seigneur, nous te prions pour que la vie continue malgré tout. Donne-nous de rester fermes dans la foi, dans la confiance, alors que parfois on a tendance à vaciller. Oui, Seigneur, nous voulons regarder, comme le dit le psaume 46, à cette citadelle que tu es pour nous, cet abri, ce refuge. Te prions, Seigneur, au nom de notre ami fidèle, Jésus. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, donne-nous d'abonder en espérance. Amen.